Ça y est, je vais le quitter. Il risque de se venger. Des photos les plus osées sont planquées dans ses dossiers. Allez, tant pis pour les amis, les invitations, les sorties. Je partage l'événement de ce jour. C'est la fin de notre histoire d'amour. Quitter Facebook, c'est total look. Balancer ses amis et reprendre sa vie. Quitter Facebook, c'est total look. Et compter ses amis sur une main, oui ça suffit. N'osant pas déconnecter, je coche relations compliquées. Oh, et puis je dis à la terre entière, Florent est célibataire. Voilà que j'étale sur la toile mon état matrimonial et que je guette le commentaire. Alors Flo Flo, libre comme l'air. Quitter Facebook, c'est total look. Balancer ses amis et reprendre sa vie. Quitter Facebook, c'est total look. Et compter ses amis sur une main, oui ça suffit. C'est pas garder un secret. Toute ma vie, il la vendrait à des marketeurs idiots qui prennent l'humain pour un McDo. Pour un peu que je me fasse virer. Quand sur mon boss j'ai craché, en plein dans le mur, ouais j'ai foncé. Allez Facebook, on va casser. Quitter Facebook, c'est total look. Balancer ses amis et reprendre sa vie. Quitter Facebook, c'est total look. Et compter ses amis sur une main, oui ça suffit. Mon amour, je t'ai quitté sans vraiment te déserter. C'est de moi que je crains le pire. T'es le miroir de mes désirs. J'aime encore ta liberté, celle que tu fais souffler en Tunisie ou bien au Caire. Facebook mon révolutionnaire. Faire de Facebook un nouveau look. Faire que tous ses amis osent reprendre leur vie. Faire de Facebook un nouveau look. Étendre à ses amis juste une main, oui ça suffit. Faire de Facebook un nouveau look. Faire que tous ses amis osent reprendre leur vie. Faire de Facebook un nouveau look. Étendre à ses amis juste une main, oui. Juste une main, oui, ça suffit.
Ce matin, devant une vingtaine d'élèves un peu fatigués d'attendre le Père Noël depuis presque un an, de le croiser même toutes les quatre matins dans la rue sans qu'il ne se donne encore le temps de passer ses œufs et de compter le nombre de dodos qui les séparent du jour de la prochaine Toupie Blade Blade ou de leur déguisement Spider-Man, je lisais un conte très connu. Un conte très connu, mais finalement pas très en phase avec leurs préoccupations du moment. Aussi, je me félicite qu'ils aient été relativement attentifs jusqu'au bout, même si, comme moi, cette histoire, ils la connaissaient déjà presque par cœur. Je leur dédicace d'ailleurs cette émission, même si à l'heure qu'il est, aucun ne m'écoute plus, les ingrats. Enfin bref, ce matin, ils ont été très attentifs, et moi-même, je me laissais un peu bercer par les moments connus de ce conte d'enfant. Mais parvenu à la fin de l'histoire, il m'est venu un doute. Un doute sur l'objectif pédagogique de cette démarche. Parce que finalement, cette histoire de cochon, qui est une sorte de bilan de résistance accélérée de leur maison, elle fait finalement l'apologie du béton et du parpaing. Et je me suis dit, est-ce qu'elle n'a pas été écrite par un lobby du ciment à une époque aujourd'hui révolue ? Et ne faudrait-il pas réécrire cette histoire et la remettre au goût du jour pour enseigner plutôt à nos chères petites têtes blondes les bienfaits des constructions en bois ou en paille ? Bref, faut-il cesser de lire Les Trois Petits Cochons à nos enfants ? C'est la question que je voulais aujourd'hui poser à nos deux invités spécialistes, Laurent Mouly et Alexis Demanche, qui sont des spécialistes de l'éco-construction. C'est le thème de notre émission. Bonjour, il est 20h30 passé, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, Zoom Écologie, c'est parti.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30. À 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Voilà, bonjour à tous. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Ça va ?
Très bien.
Alors, comme d'habitude, nous sommes avec Cyril, la technique, Sophie. Laurence est malade aujourd'hui, donc elle s'excuse, elle a la grippe. Et nous allons parler aujourd'hui de l'éco-construction. Et pour ça, nous avons deux invités qui sont tous les deux ingénieurs, architectes. Enfin, vous allez nous expliquer ce qui vous différencie et pourquoi vous êtes dans cette émission. Nous avons tout d'abord Laurent Mouly. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Et puis, nous avons également Alexis Demanche. Bonjour.
Bonjour.
Donc, alors vous, peut-être on va commencer par vous, Alexis. Vous êtes un architecte.
C'est ça.
Et vous avez, il y a 3 ans, fait une sorte de conversion où vous vous êtes lancé dans l'éco-construction à 100% avec un projet un peu radical, radicalement différent de ce que vous aviez connu.
Bah, c'est-à-dire que oui, une conversion en fait, dans la lignée de ce que je pensais vouloir développer à mon compte. Donc, et puis j'ai démarré en indépendant pour pouvoir développer cette grande philosophie et voir ce qui était possible de faire en pratique.
D'accord. Alors peut-être ce qu'on peut commencer par faire, c'est rappeler qu'est-ce que l'éco-construction ? Est-ce que vous pouvez nous aider à aider à définir un peu pour nos auditeurs et pour nous-mêmes ?
Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ?
Oui, alors l'éco-construction, bah, c'est quand même...
C'est un peu le grand oral pour Alexis, là, ce soir.
Et bah, évidemment, j'y ai réfléchi un petit peu, du coup... puisque c'était le thème. Et qu'est-ce que c'est l'éco-construction, si ce n'est reprendre en fait tout ce que pratiquaient les anciens en harmonie avec l'environnement et avec le corps humain, tout simplement. Et aujourd'hui, donc ça, c'était avant, et aujourd'hui, on adapte l'éco-construction après des phases un peu cafouilleuses dans le XXe siècle. Donc on réaborde ces grandes notions avec... j'ai envie de dire avec un petit bonus parce que notre sensibilité, nos critères de confort ont pas mal évolué.
D'accord.
Et donc.
Et en quoi vous êtes différent des autres ? C'est ma première question un peu naïve. L'architecte, il a toujours voulu tourner les bâtiments vers la lumière. Il y a quand même des choses qui restent. On ne revient pas à un temps passé.
Non, on ne revient pas en temps passé, mais c'est pour ça qu'il faut réapprendre à travailler avec ce qu'on appelle la bioclimatique. C'est ça, c'est travailler avec, avec l'environnement, avec les outils qu'on a accessibles aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui n'est pas si facile et qui n'est pas non plus très démocratisé parce que à cause du public et à cause de la politique, à cause de l'industrie, à cause des lobbies. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à faire aujourd'hui, qui ont été cassées pendant 50 ans.
Parce qu'en fait, on dit que l'éco-construction, c'est la date du premier choc pétrolier. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Mais comme dit Sophie, vous ne pensez pas qu'on a fait de l'éco-construction depuis beaucoup plus longtemps que ça et
finalement, Si. Ah, si, complètement. Mais on l'a un peu oublié.
C'est ça. C'est un peu comme l'alimentaire. Il faut réapprendre des choses.
Il faut réapprendre le basique, plusieurs. La logique de ce qu'on doit penser. Pourquoi est-ce qu'on a froid dans une maison ? Pourquoi est-ce qu'on a chaud ? Voilà, pourquoi est-ce qu'on consomme autant d'énergie ? C'est des choses qu'il faut... Je pense qu'en fait, il faut tout remettre à plat. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant d'énergie ? Est-ce que ce qu'on met sur les murs, sur le sol, c'est bon pour notre environnement et pour notre corps surtout ?
D'accord. L'élément déclencheur, c'est l'économie d'énergie, de toute façon, à tout ça. Et
Disons que c'est un des... c'est un des points importants de la réflexion.
Et après, tout ce qui est dégagement des gaz à effet de serre, c'est aussi un argument quand même fort, puisque si je ne dis pas de bêtises, le bâtiment est responsable d'à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est le deuxième secteur derrière le transport qui dégage autant. Donc est-ce que ça, c'est quelque chose de...
Il y a ça qui est important, ouais. Mais ça, on y réfléchit justement dans les notions de production d'énergie, déjà. Et alors il y a ce chiffre-là qui est intéressant, mais il y a aussi justement le chiffre de la consommation d'énergie. Là, effectivement, pour le bâtiment, c'est le premier secteur de consommation énergétique en Europe, loin devant les autres, puisqu'on est à 43%.
Bien avant le transport, alors, finalement.
Avant le transport, qui est à 30%, et après, on a l'industrie à 28%, et après, le reste. Voilà. Mais c'est le bâtiment, effectivement, c'est avec le bâtiment qu'on consomme le plus d'énergie.
Donc éco-construire aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre des panneaux solaires ? Ça veut dire repenser complètement une architecture passer à la structure en bois, ça veut dire quoi quand on veut...
Avec une différence peut-être à faire entre bâtiment nouveau et bâtiment ancien, parce que comment on fait quand on se retrouve face à un bâtiment ancien qui a été conçu il y a 100 ou 50 ans et qui n'a pas des performances énergétiques
Oui, alors justement, moi, c'est une notion que j'essaie de beaucoup développer, c'est-à-dire réfléchir vraiment... Quand on parle d'éco-construction, on parle déjà à la base, on parle de construction, et ne serait-ce que le principe de construction consomme de l'énergie. Donc déjà, je me pose la question de pourquoi construire, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de construire quand on a un patrimoine bâti existant qui est riche et qui est là. Et pourquoi construire et où construire surtout. C'est vrai qu'on a, bon ça c'est quelque chose que je pourrais un peu développer, mais qu'on a beaucoup de tendance à aller construire un peu hors des villes pour se fabriquer une maison écologique.
En paille, en l'occurrence, la maison des petits cochons, comme disait Alexandre.
Voilà, après, quelle est la pertinence de tout ça? Si avant, on ne s'est pas posé la question de ce que va consommer cette maison si loin de la ville et de son impact sur le paysage. Et sur les terres qu'on consomme finalement aussi.
Et aujourd'hui, vous avez fait cette conversion il y a 3 ans. Vous sentez quoi par rapport à vos clients? Il y a un effet de mode, il y a une vraie prise de conscience. C'est une opportunité de business aujourd'hui de faire de l'éco-construction
C'est qui les clients?
Alors moi, pour l'instant, je travaille essentiellement avec des petits particuliers. Donc, avec lequel j'essaie de développer mes idées un peu avec eux dans une démarche un peu collective. Et ça, effectivement, de toute façon, le point de départ de ça, c'est qu'ils acceptent ne serait-ce que de réfléchir à toutes ces questions-là.
Qu'est-ce que vous leur dites à vos clients quand quelqu'un vient vous voir parce qu'il a vu que vous étiez labellisé, ou je ne sais pas comment dire, mais un peu éco-construction? Vous les prévenez de votre démarche, c'est quoi votre démarche?
Il y a deux types, soit quelqu'un qui vient me voir comme ça sans idée préconçue, je lui explique qui je suis et ce que j'ai envie de faire avec lui. Soit en quelque sorte il accepte ou il a envie de jouer le jeu avec moi. Et puis dans ce cas-là, on marche ensemble. Soit quelqu'un vient me voir vraiment parce qu'il a, ça sur le cœur et qu'il a envie
mais ce
de...
Mais ce ça, c'est quoi exactement?
Qu'est-ce que c'est?
Psychanalyse d'Alexandre.
c'est cette envie de bien faire. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit au téléphone justement si je dois rénover ma maison, pourquoi pas rénover de manière responsable.
D'accord.
Donc c'est ça. Alors responsable par rapport... moi, je pense surtout... Quand il me parle de responsabilité, je me dis que c'est surtout par rapport aux générations futures, j'imagine.
D'accord.
Que lui emploie ce mot. C'est pas un mot que j'emploie particulièrement, mais c'est vrai que ça m'a marqué tout à l'heure. Je me suis dit que c'était intéressant de penser à ça.
Parce que ça veut dire un coût plus élevé?
Le coût plus élevé, je sais pas si on peut parler de coût plus élevé parce que... Ça va forcément avoir un petit coût plus élevé, mais justement, dans la démarche, on va aussi réfléchir à comment réduire ce coût. Est-ce que... Il y a plusieurs pistes. Coût par rapport à quoi, par rapport au confort, par rapport au mètre carré. Alors, si c'est un coût au mètre carré qui est plus élevé, dans ce cas-là, on peut se poser la question de savoir si on veut construire 100 mètres carrés, est-ce que tout simplement 95 mètres carrés, ça ne va pas suffire? C'est des petites choses comme ça.
Après, c'est la question du terme aussi, court terme, long terme. Il y a des choses à faire entrer dans l'esprit des gens aussi, je pense.
Ce qu'on appelle le coût global, c'est-à-dire ce qu'on va dépenser aujourd'hui, on va faire beaucoup d'économies normalement sur l'avenir.
Alors Laurent Mouly, vous êtes aussi... vous êtes plutôt dans la partie conception, bureau d'études, ingénieur dans les constructions, c'est ça votre spécialité?
Oui, absolument. On est, donc en fait, je travaille avec mon frère Grégoire, on est deux ingénieurs et on s'associe dans une démarche en essayant d'associer la conception du bâti, de la construction et la conception sur le plan énergétique. Parce que aujourd'hui, ces deux métiers-là sont dissociés.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a, dans le jargon, il y a l'ingénieur fluide qui s'occupe de toute la technique dans le bâtiment et l'ingénieur structure qui s'occupe de la construction du bâti et de ce qui tient ce bâti, la structure. Et en fait, en deux mots, celui qui est chargé des fluides, donc de toutes les installations techniques dans le bâtiment, a récupéré, quand la question énergétique est apparue dans les années 2000, principalement avec les réglementations thermiques, c'est les ingénieurs fluides qui ont récupéré la question thermique. Et donc on a étudié les problématiques énergétiques en les associant aux équipements techniques.
D'accord.
Et aux installations techniques dans le bâtiment. Or, moi, je pense que c'est fondamental de
travailler sur la structure.
Travailler d'abord sur le bâti, et concevoir le bâti.
Le bâti, ça veut dire quoi, en fait? Penser l'architecture de sa maison, c'est ça que ça veut dire, concevoir le bâti?
Exactement, c'est construire avec une architecture bioclimatique, faire attention justement à la qualité des matériaux dans leur comportement énergétique, c'est-à-dire il y a des matériaux qui vont stocker de la chaleur, d'autres qui ne vont pas en stocker du tout. Il y a des matériaux qui vont être capables de réémettre cette chaleur plus ou moins vite. Donc tout ça va induire un fonctionnement énergétique propre au bâti, particulier. Et ce qui est très intéressant, c'est d'avoir réussir à concevoir et d'avoir les moyens techniques, les moyens presque... Parfois, on parle de physique du bâtiment, donc c'est-à-dire qu'il faut être capable d'appréhender sous l'angle physique le bâtiment, et c'est ce qu'on essaye de faire. Quand il y a ensuite besoin d'équipement, il y a toujours besoin d'un petit peu d'équipement, un petit peu de chauffage, un petit peu d'électricité, etc. Dans un deuxième temps, on regarde quel est le besoin effectif.
D'accord.
Hein, et donc.
Mais ça, cette démarche, elle paraît assez évidente quand vous en parlez comme ça, enfin de commencer par réfléchir à la structure et aux matériaux. Vous savez pas à qui, finalement.
Non, je pense qu'on est très peu. En France, on est très peu de bureaux d'ingénieurs ou de bureaux d'études à associer la conception de la construction et la conception sur le plan énergétique.
D'accord.
Et pour ma part, moi, je me suis... C'est une histoire un peu singulière. On s'est retrouvé avec mon frère à travailler ensemble. Et lui était ingénieur en mécanique des fluides. Moi, je suis ingénieur sur le solide. Et architecte, et donc on s'est associé et on est parti dans cette lancée-là.
Une histoire de famille, alors.
Grâce, non, pas seulement, parce qu'en fait j'enseigne aussi en école d'architecture.
D'accord.
Depuis quelques années, et donc c'est en partie grâce aux étudiants, grâce à leur regard sur notre société contemporaine, que je me suis aussi lancé là-dedans.
Alors moi j'ai une question, parce que en vous écoutant tous les deux, un peu voir votre parcours, etc., on a vaguement parlé de label. Mais quel est le tatouage idéal pour s'affirmer en tant qu'éco-constructeur? Parce qu'on voit pas mal de choses passer, le label éco-artisan, les pros de la performance énergétique portés par différentes fédérations concurrentes. C'est de la com, c'est une véritable un label avec des critères. En plus, j'entends parler de HQE, je lance un peu tous les... celui qui est éco-constructeur, c'est celui qui sait monter un projet HQE, c'est celui qui a le label éco-artisan, c'est celui qui a le label de l'autre.
Je pense qu'on est à une période charnière, et aujourd'hui, il n'y a pas encore de règles en la matière. Autant aujourd'hui, par exemple, la structure, il y a une qualification pour trouver une entreprise de charpente qui serait qualifiée.
D'accord.
Avoir sa qualification qui est appuyée sur des années de pratique, et là c'est très clair. Mais pour ne citer qu'un exemple sur les questions environnementales et énergétiques, qui englobe un petit peu, on va dire, le chapitre éco-construction, il y a eu récemment donc la première opération d'éco-quartier qui a été livrée à Grenoble il y a quelques années. Et donc,
quartier de Bonne à Grenoble, c'est
exactement.
Ça.
Et donc, depuis deux ans, ce quartier...
Je suis grenoblois, je suis désolé.
Non, mais c'est... sur toutes ces questions, on ne va pas forcément dire des choses très gentilles sur la HQE, mais ça reste le premier pas qui a été fait il y a de très nombreuses années, il faut le savoir. Je ne sais pas d'ailleurs quelle année est apparue exactement la norme, mais ceux qui se sont fait les promoteurs de ce premier pas vers les questions environnementales sont des gens extrêmement importants et bien.
Et pour le coup, c'était un gros projet quasiment de communication de la ville de Grenoble qui voulait s'affirmer comme ville verte.
Voilà. Et alors, sur Beaune, ce qui est très intéressant, c'est que le projet a été livré il y a 2-3 ans, qu'on a donc maintenant les bâtiments construits avec des gens qui ont vécu dedans pendant 2 ans. Et Olivier Zilter du bureau d'études Enertech qui a fait 2 ans de mesures pour analyser le comportement énergétique de ce bâtiment et essayer de comparer le...
C'était du neuf, hein.
Ouais, absolument. Et essayer de comparer les prévisions à la réalité. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a des écarts. Il y a des écarts très significatifs. Et... Donc moi, j'ai tendance un petit peu à penser que, je rapproche ça de notre expérience pratique dans les projets qu'on traite, et j'ai tendance à penser qu'on veut faire en ce moment de la HQE, du BBC, des constructions qui sont performantes sur le plan énergétique et environnemental, et on n'y met pas les moyens. Les gens ne sont pas forcément formés pour... Et au final, on fait pas ce qu'il faut. C'est-à-dire que on est, alors que le BBC est un label qui a à peine 2 ans d'existence, il y a déjà des dossiers au ministère sur les pathologies du BBC qui sont assez conséquents. Donc en fait, pour vous répondre sur qu'est-ce que c'est que l'éco-construction, si on peut recentrer sur ce qui est le concept fondamental et le plus important, au-delà de toutes ces normes et labels, je pense que c'est dans 2 ans, 3 ans, quand un certain nombre de projets seront réellement construits, qu'on va pouvoir voir, chiffres à l'appui, qu'est-ce qu'un projet qui est bon pour ses habitants, et aussi bien sur le plan économique, parce qu'il sera performant au niveau énergétique, et donc il sera peu coûteux sur le plan des dépenses énergétiques. Et en même temps, on s'y sentira bien, tout simplement. C'est-à-dire que le bâtiment aura réussi à rétablir un lien entre l'homme et son environnement satisfaisant. Et je rebondis sur ce que disait Alexis tout à l'heure au début, c'est-à-dire que, effectivement, depuis très nombreuses années, je pense que la distance entre l'homme et l'environnement s'est considérablement distendue parce qu'on y a mis justement des labels, des normes.
Contraignants, finalement.
Contraignants et qui déroutent et qui détournent du sujet fondamental. Ce qui fait qu'à mon avis, sur l'éco-construction, je pense qu'il ne faut sûrement pas aller chercher dans les labels. Sûrement pas aller chercher dans tout ce qui permet d'asseoir sur le plan d'une com un certain niveau de compétences. Il faut aller chercher bien ailleurs, et je pense que c'est aujourd'hui, nous on essaye un petit peu de se bagarrer justement sur le développement de techniques et de compétences alternatives à tout ce paradigme qu'on nous vend et qui nous dirige tout droit vers la maison passive, c'est-à-dire, en 2 mots, la maison thermos. Hein, celle qui coupe complètement l'homme de son environnement. Voilà. Et j'ai juste une petite anecdote qui est assez marrante, c'est qu'il y a 2-3 ans, quand les premières constructions BBC apparaissaient, tout le monde se bagarrait pour avoir son projet labellisé BBC. Parce qu'il faut savoir qu'on est quand même obligé d'en passer par là, tout simplement parce que les maîtrises d'ouvrage, elles sont comme les autres. Il leur faut des subventions pour pouvoir construire. Et ces subventions sont attachées à tous ces référentiels qui sont imposés.
Puis il y a une question de subvention aussi. Pendant un long moment, maintenant, c'est un petit peu fini. Mais
Il y a des subventions pour les particuliers. Il y avait des intérêts...
économiques.
Des crédits d'impôt. Il y a un certain nombre de leviers qui permettent de sponsoriser un peu cette économie. Il faut savoir aussi que dans le logement social, par exemple, les maîtres d'ouvrage, ils ont des subventions qui sont attachées à des labels. Donc on est obligé d'être HQE, on est obligé d'être BBC, on n'a pas le choix.
Parce que HQE, en plus, si je ne m'abuse, on en parle là vaguement, mais c'est 14 critères assez précis, notamment dans la gestion du chantier également. Pour vous, si c'est trop compliqué de rentrer là-dedans,
Non,
ça ne correspond pas, parce que, est-ce que c'est ça qui explique l'exemple que vous donniez sur Grenoble, où il y avait une différence entre la prévision et puis ce qui a été réalisé, finalement, ça ne collait pas?
Ben, c'est que effectivement toutes ces grilles d'évaluation, hein, de normes, on peut appeler ça, donc finalement un moyen d'évaluation, elles sont mal pensées. Elles ne sont pas adaptées pour s'assurer de la performance. Alors, il faut juste peut-être sur la question énergétique faire un tout petit... toute petite précision, c'est-à-dire qu'il y a aussi une grande... le problème est à plusieurs niveaux, il est assez complexe. Il est aussi bien du niveau des constructeurs, des concepteurs que des usagers. Et c'est très complexe comme question, puisque on a un niveau de performance qu'on exige, donc à un moment donné, il va falloir le garantir. Ça pose des tas de problèmes, notamment des problèmes d'assurance. Savoir comment est-ce qu'on peut garantir quand il y a à la fois le concepteur, l'usager et le constructeur.
Ça doit rentrer dans la décennale, la fameuse décennale, garantie décennale des bâtiments.
Nous, on va devoir apporter des garanties. Les assureurs s'arrachent les cheveux, je crois, en ce moment, pour savoir comment ça va se passer. Mais il faudra bien trouver un moyen d'y arriver. En tout cas, ce qui est important de dire simplement, c'est que la distance entre la prévision et la réalité, qui est ce qu'on a mis en avant dans les essais qui ont été faits à Grenoble, est une question extrêmement complexe. Donc il n'y a pas que l'HQE là-dedans, mais en tout cas, pour revenir sur la question de l'HQE, nous, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on se dit que c'est le minimum vital, parce que d'abord, il faut avoir le label. Hein, on n'a pas le choix, c'est une question de financement. Ce qui est intéressant, c'est de trouver le moyen de faire comprendre que l'environnement, c'est autre chose. Tout le monde a envie de passer à cette étape-là, notamment les spécialistes de l'HQE qui en ont marre de se farcir des kilos de paperasse inutile dans lesquels il faut mettre 36 croix. C'est un peu le problème de cette norme, cette marque, hein, puisque ce n'est pas une norme, c'est une marque, donc qui veut dire haute qualité environnementale. J'ai une petite anecdote qui est assez marrante, c'est qu'on travaille actuellement sur un projet à Paris avec des architectes qui s'appellent Richard Thomas et Christine Désert pour la construction de 4 logements dans le 18e. Et dans ce projet-là, on a poussé la démarche en se disant qu'il fallait qu'on construise un projet différemment. Parce que tout simplement, l'idée est venue de deux points. C'est que premièrement, le site a des particularités, c'est-à-dire que le sol n'est pas très bon, donc on n'avait pas envie d'aller construire lourd. On est dans un quartier aussi très dense, donc on n'avait pas envie d'envoyer 36 bétonnières tous les jours pour aller construire ce bâtiment et user surtout les habitants du quartier. Les architectes avaient l'intention de construire un bâtiment... qui s'inscrivait dans le tissu parisien et dans l'architecture faubourienne de Paris. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ça nous a amené à revisiter un petit peu les technologies constructives traditionnelles, entre guillemets. Et on s'est orienté vers un projet qui est construit en béton de chanvre avec du pan de bois, comme tous ou la plupart des immeubles de Paris qui sont construits avec des ossatures en bois...
Parce que la demande, c'était quoi? C'était en termes d'isolation que c'était plus performant?
C'est un bâtiment qui devait être performant, absolument. Le béton de chanvre est une réponse extrêmement intéressante parce que plutôt que d'associer un mur en béton qui fait une certaine épaisseur, auquel on ajoute des isolants qui sont de plus en plus épais, nous, on s'est dit qu'on allait supprimer le mur en béton et le remplacer directement par un mur en béton de chanvre qui fait du coup à la fois le remplissage et l'isolation. Donc, on n'a plus besoin du mur en béton. On a une structure qui est en ossature par derrière. Et l'intérêt de tout ça, c'est que... mais on ne l'avait pas tellement dit à nos maîtres d'ouvrage, mais l'intérêt, c'est qu'on faisait un effort sur les performances énergétiques du bâtiment. Et on faisait un effort extrêmement important sur l'énergie incorporée dans la construction du bâtiment. Et donc, en deux mots, là où le bilan énergétique était de... on divisait par trois à peu près la performance énergétique sur le bilan de l'exploitation, le fait en plus de faire un effort supplémentaire sur la construction permettait de réduire encore le bilan global en divisant par quatre l'énergie incorporée dans le bâtiment et l'énergie liée à l'exploitation. Et pour conclure, ce qui est très intéressant, c'est que nos maîtres d'ouvrage nous ont la ville, l'aménageur du quartier, qui est une société d'économie mixte, tout le monde a été extrêmement intéressé au point que l'HQE et l'ensemble des exigences qui amenaient à des tribulations incroyables comme la position de la porte du local poubelle, par exemple, ou la taille du local poubelle, enfin des problématiques complexes quand on a une toute petite parcelle. L'ensemble des acteurs du projet a reconnu que l'environnement, ça pouvait être et ça devait être autre chose. Ça devait être d'abord ça, le reste était anecdotique. Et ça, on est extrêmement intéressant d'avoir réussi à, extrêmement content d'avoir réussi à réorienter le regard de tout le monde sur une autre conception de l'environnement.
C'est-à-dire que concrètement, vous n'êtes pas passé par du coup les labels HQE dont vous parliez alors, du coup sur ce projet-là.
Si.
Vous n'avez pas le choix quand même.
Le label reste et c'est un boulet qu'on se traîne, mais on n'a pas le choix.
Mais c'est quand même une avancée ce label, parce qu'on hésite en vous écoutant entre est-ce que c'est un premier pas, parce que c'est un premier pas indispensable, ou est-ce que c'est une mauvaise direction?
Je pense qu'il y a des deux. Alors, il y a un truc très important, c'est que la norme, elle a quand même un gros intérêt qui est que, à l'échelle nationale, on va exiger un niveau minimal pour tout le monde. Et de ce point de vue-là, la norme est essentielle. Le problème, c'est que la norme, il faut la financer. Et toutes les normes sont financées par les industriels qui ont les moyens de financer ces normes. Donc, on en est aujourd'hui très clairement, et ça, tout le monde le comprend très bien, confronté à un niveau d'exigence qui est finalement un peu piloté par notre force et notre capacité industrielle. Voilà.
D'accord.
Donc c'est dur de faire alternatif.
Eh bien, on est sur la bonne antenne radio hors norme, là, c'est parfait. On va faire une petite pause musicale, comme en milieu de chacune de ces émissions, du troisième jeudi de Zoom Écologie. Et on reçoit aujourd'hui Florent Nouvel. Bonjour Florent.
Bonjour.
Florent, qui est un jeune artiste, vous vous dites influencé par, sur votre site, les Vriegels, Gaston Lagaffe, Renaud, Bourdieu. J'ai cité quelques exemples, je ne vais pas tout citer.
Il n'y a aucun chanteur là-dedans.
si Renaud, non, enfin, pas.
Ce qu'il en reste.
donc c'est assez vaste.
Ouais.
Vous êtes un chanteur assez influencé, j'ai remarqué, par les thèmes d'actualité, c'est-à-dire on vous a vu, on vous a écouté sur une chanson que vous avez écrite suite à la lecture des quais de Ouistreham de Florence Aubenas, ouais. Une chanson sur les Vélib à Paris, ouais. La chanson qu'on a écoutée en début d'émission était une chanson à vous qui s'appelle Quitter Facebook.
Oui.
Donc vous aimez bien ça, surfer sur les thèmes d'actualité?
Surfer, je sais pas, c'est pas une intention calculée, c'est un regard que j'ai. Je suis peut-être, mon histoire aussi fait que je suis amené à ça. Je suis sociologue de formation. D'accord. Donc c'est aussi un regard que j'aime développer sur les situations et sur les choses. Et puis dans le fond, quand j'écris des petites histoires, des chansons, je me dis tiens, qu'est-ce qui aujourd'hui semble cristalliser un certain nombre de choses pour les gens. Donc voilà, je lis un article dans l'IB sur les gens qui ont décidé de quitter Facebook, par exemple. Et là, je me dis, oh. Puis je vois qu'il y a plein de raisons, qu'il y a plein de choses, et je me dis, il y a peut-être quelque chose à dire.
D'accord.
Et donc, avec mon personnage, là, qui s'appelle Flo, je le développe, et je vais chanter sur scène, et je vais écrire des genres de chansons comme ça, qui sont une sorte de bande dessinée. Il y a du Gaston Lagaffe, où c'est des personnages, où je joue à raconter des histoires. Voilà.
D'accord, oui, parce que sur scène, vous êtes un personnage, en fait.
J'aime bien distinguer toujours la scène et le hors-scène, ce qui permet d'être deux fois plus libre sur scène, je trouve. D'accord. Sur scène, c'est un grand jeu, quoi, et donc il y a c'est un prolongement de moi, hein. Moi, Florent Nouvel à l'extérieur, et puis Flo sur la scène, on va dire ça comme ça, qui est un peu ce personnage un peu échevelé, un peu maladroit, avec une forme de tendresse, et puis... voilà, toujours j'essaie de le faire le plus possible au milieu des gens qui viennent me voir, au sens dans des propos bien contemporains, dans des histoires bien contemporaines, dans des préoccupations bien contemporaines.
Et l'éco-construction et le label HQE, ça va vous inspirer quelque chose ?
Bah, pour l'instant, j'en sais rien. J'écoute, vous savez, c'est toujours pareil. Ça passe au petit ami de mon intériorité. Et puis, il y a un moment peut-être où ça va ressortir d'une quelconque manière. Oh, avec les Vélib, j'étais déjà pas si loin que tout ça. J'étais avec une préoccupation. Et puis, un peu, voilà, c'est tout, parfois, un peu, il peut y avoir un peu de fantasme de retour à la nature, comme disait tout à l'heure, quand il disait d'aller s'installer à tout prix à la campagne, de loin, en pensant que c'est ça, faire de l'éco-construction, alors qu'on voit bien que c'est des choses beaucoup plus complexes que ça.
Ouais, bien sûr, ouais.
Donc voilà, je travaille aussi sur les fantasmes des gens qui veulent être d'une certaine manière. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra dans les thèmes de chansons. Qui sait ?
Alors là, on va écouter une chanson en live acoustique. Vous êtes venu avec...
Martial Bord, mon guitariste.
Martial, guitariste. Un de vos deux
guitaristes. Un de mes guitaristes, d'accord. Tout à fait.
Vous allez nous interpréter quoi comme chanson ?
Ah, c'est une chanson sur un petit homme politique que vous connaissez sans doute bien.
D'accord.
Et qui est à l'origine, sans doute, en partie de Grenelle de l'environnement, avec ses grandes qualités et ses grands défauts également.
D'accord,
aussi.
On parlera du Grenelle dans l'environnement tout à l'heure pour savoir si c'était des avancées. Donc, le grand garçon, parce que vous êtes un grand garçon.
Voilà, le grand Flo-Flo chante le petit homme politique.
Il est à peu près 2 mètres, donc chante le petit homme politique.
Voilà.
On vous écoute, c'est en live acoustique, c'est sur Fréquence Paris Pluriel. Merci.
Je suis un homme public, au sourire sympathique, un petit homme politique complètement cynique. Je sais que je suis comme ça, mais maintenant que je suis roi, il faudra faire avec moi. En gage de ma bonne foi, j'étale tout ce qui est à moi. On m'a dit de me calmer, mais je peux pas m'empêcher. La 1, la 2, la 3, vous ne m'échapperez pas. Sur mes vélos basket, admirez la starlette. Je suis un homme public, au sourire sympathique, un petit homme politique complètement cynique. Je sais que je suis comme ça, mais maintenant que je suis roi, avec moi, je garde la république, qu'il faut pas énerver. Avec moi les comiques, va falloir la fermer. Caricaturer, c'est devenu mon métier. Allez, casse-toi pauvre con, va continuer ta chanson. Je continue ? Je suis un homme public, au sourire sympathique, un petit homme politique complètement cynique. Je sais que je suis comme ça, mais maintenant que je suis roi, il faudra faire avec moi. Mon physique c'est pas ça, mais regardez mes nanas. Y'a ma grande Carla, Cécilia, j'en parle pas. En Chanel ou en Dior, elle fait péter le score. Enrico, c'est à toi, la France te suivra, Enrico. Et ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Ah, qu'elles sont jolies les femmes de Sarkozy. Oh, zaï, 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 mes frères. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Ah, qu'elles sont jolies les femmes de Sarkozy. Oh, zaï, 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 zaï. Moi j'ai la solution pour sauver la nation. Un bon bouc émissaire, c'est bien mieux qu'une bonne guerre. Les Roms, les étrangers, vous êtes bien tombés. Allez, faites décoller ma popularité. Je suis un homme public, au sourire sympathique, un petit homme politique complètement cynique. Je sais que je suis comme ça, mais maintenant que je suis roi, il faudra faire avec moi. Mais est-ce qu'un homme public doit jouer avec le fric? Un petit homme politique brader la République? Est-ce que c'est de la démence ou bien l'état d'urgence? J'ai pas de certaine idée de la France, moi. Oh. Je suis un homme public, au sourire sympathique, un petit homme politique complètement cynique. Je sais que je suis comme ça, mais maintenant que je suis roi, il faudra faire avec moi.
On a bien compris de qui il s'agissait, Florent, merci.
Je sais pas, moi.
Florent, j'ai pas dit, vous faites partie d'un collectif d'artistes qui s'appelle Les Beaux Esprits.
Tout à fait, c'est un très beau collectif, comme son nom l'indique.
Voilà, qui organise plusieurs, quoi.
Voilà,
régulièrement des concerts à Paris.
Concerts à Paris,
on avait reçu Garance il y a quelques temps dans cette
d'accord,
émission.
D'accord, qui a chanté au Sentier Léal avec Pauline voilà. Paris il n'y a pas longtemps.
Qu'on recevra sans doute un jour.
Avec
également.
Les Beaux Esprits, ouais.
Et vous, on vous retrouve en mars 2012 au Sentier Léal également, c'est ça ?
En mars 2012 pour la sortie
de ce en fait, le projet, c'est des petits deux titres, comme Martine à la plage, en fait. D'accord. Sauf que c'est Flo-Flo. Donc le premier, c'était Les petits et les grands. Après, il y en a Flo-Flo sur le net qui arrive au mois de mars, avec la chanson Quitter Facebook, une chanson qui s'appelle Internet Chérie, sur les gens qui vont surfer sur les sites. Vous verrez. Et puis, le prochain après s'appellera Flo-Flo amoureux, mais ça, on garde pour l'instant le silence des chansons. On enregistrera dans quelques semaines bientôt. Donc voilà, c'est des petites histoires. D'accord. Sous la forme de deux titres, mais pas deux titres qu'on voulait commercial, on voulait des deux titres un peu concept, petites histoires. On a choisi ce support-là pour raconter ces histoires-là. Donc c'est un choix.
D'accord.
Même s'il n'y a pas de place pour vendre des deux titres à la FNAC aujourd'hui, mais ça viendra.
Et eh ben, vous viendrez nous en reparler. Merci en tout
avec
cas.
Avec plaisir, merci pour tout.
Cyril avait une question, je ne sais pas si c'est une question pour Florent ou pour nos ingénieurs architectes qui sont ici, Cyril.
Bonsoir.
Ah, c'est une question d'un auditeur, bonjour.
Tout à fait, bonsoir. Moi, j'avais une réflexion en vous écoutant, donc plus particulièrement sur les écoquartiers, parce qu'on voit que ça se développe de plus en plus, notamment, moi, on est en région parisienne, donc à Lys-Saint-Denis, à projet d'un écoquartier. Est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce que c'est fait déjà en concertation, je ne sais pas, avec les municipalités? Et l'autre question que moi, ça me pose, c'est comme il y a une inflation de logements et que la plupart des gens qui vont habiter dans les écoquartiers, c'est plutôt des gens qui ont des moyens quand même un petit peu plus importants, on va dire, que la moyenne. Est-ce que vous avez une réflexion sur ça, justement? Est-ce que ça peut pas créer une forme d'exclusion?
Si, peut-être.
oui, c'est pas facile.
Alexis, il a les questions faciles.
C'est un vrai baptême du feu, allez.
Oui, une exclusion, c'est sûr, ça peut provoquer ça, d'autant plus qu'on parle de plus en plus de précarité énergétique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations assez terribles où ils sont où ils ne sont pas capables de se payer de quoi se chauffer, ne serait-ce que ça. Et en parallèle, on essaie de développer toutes ces démarches environnementales, effectivement, comme vous dites, pour les écoquartiers. Alors moi, j'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça et à la vraie existence des gens qui habitent là-dedans. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer que tout ça va être un peu moteur d'un élan et est-ce que cette exclusion, elle va pas se faire dans un premier temps et se développer. C'est comme tout, c'est vrai que comme les matériaux écologiques aujourd'hui, on dit que ça coûte cher, mais ça coûte cher aujourd'hui parce que c'est pas industrialisé, parce que c'est pas commercialisé dans les boutiques de matériaux classiques, etc. Mais petit à petit, ça va se développer.
La première question de l'auditeur, c'était aussi si ce projet se fait en concertation avec les collectivités locales. Alors, est-ce que vous, de votre regard, vous sentez une demande, en tout cas, est-ce que les acteurs publics suivent et puis peut-être qu'on parlera après du Grenelle d'environnement. Si, est-ce qu'il y a une pression politique ou une envie politique, en tout cas, de réelle?
Juste aussi, en parlant de précarité énergétique, ça me fait penser à cette action des Robins des Toits qui date d'hier, je crois, qui sont allés remettre l'électricité chez une dame et qui n'était pas chauffée, en fait. Donc on est en plein dans ces questions-là aussi. Voilà, non, c'est juste que ça nous arrive à la figure et ça pose exactement ces questions-là. Alors peut-être voir...
Sur les acteurs politiques, alors est-ce que vous sentez une non?
Moi, je dirais que disons que sur la question du... On a parlé tout à l'heure un petit peu des labels et on a bien vu les connexions de ces labels et on va dire la finalité avec l'écart, je pense, entre justement ce que ces labels, ce vers quoi ces labels nous dirigent, nous orientent, et ce qui nous semble peut-être être important dans ce que disait Alexis au tout début de l'émission, c'est-à-dire essayer de rétablir une relation saine entre l'homme et son environnement et une relation responsable. Ce qui est une question éminemment complexe. Mais sur les écoquartiers, je pense que c'est là encore un label et vendeur, comme la signature d'un très grand architecte permet de faire passer plein de choses, un écoquartier, il permettra de faire passer plein de choses aussi. Et alors, bon, ce que je sais, moi, peut-être... simplement parce que je ne suis pas impliqué du tout dans des projets d'écoquartier, mais c'est toujours des projets qui sont publics. La plupart, parce que pour construire un quartier, il faut quand même être un acteur public, c'est difficile autrement. Et dans ces quartiers, je tiens à préciser quand même à l'auditeur que il y a toujours une très grande part de, je pense en dehors des Hauts-de-Seine peut-être et de Neuilly-sur-Seine, il y a toujours une grande part de logements sociaux. Donc c'est quand même des quartiers dans lesquels, normalement, il y a une mixité sociale qui va se développer. Bon, après, je ne rentre pas dans les arcanes de savoir comment ces logements sont attribués. C'est une autre question.
Et en même temps, moi, j'aimerais bien revenir aussi sur un autre point. Et finalement, Alexis a commencé à en parler. On parle d'éco-quartier, on parle de HQE. Mais là, on est sur de la construction neuve. Et comment on s'y prend ? On parlait de précarité énergétique tout à l'heure. Comment on s'y prend sur du bâtiment ancien ? Et je crois que c'est votre cœur de projet, cœur de métier, cœur de projet, d'une certaine façon. Comment on fait quand, en l'occurrence, on parlait, au départ, vous parliez du béton en chambre. Le plus important dans un bâtiment, ça va d'abord être le gros œuvre. Parce que s'il n'est pas assez isolé, donc comment on s'y prend
Quand on habite un appartement
à Paris, comment un maître d'œuvre comme vous s'y prend concrètement pour réaliser ce type de projet ?
Un projet de rénovation en fait. Effectivement, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a froid dans ces logements et pourquoi est-ce que ces logements ont fonctionné à un moment et donc par rapport aux notions de critères de confort qu'on avait avant. C'est vrai que je sais pas, j'avais ces réflexions là où au début, à l'époque, on acceptait plus de mettre des pulls les uns sur les autres. Aujourd'hui, beaucoup moins déjà. Et puis, on se serrait tous dans une pièce autour du poêle, même pour dormir. C'était pas un problème. Maintenant, les modes d'habitat ont évolué, donc on n'est plus aussi bien dans ces logements qu'avant. Les poêles à bois ont disparu, les gaines de cheminée ont disparu aussi. On est obligé d'aller les rechercher comme des archéologues pour arriver à comprendre comment ces bâtiments fonctionnaient avant.
Alors, est-ce qu'après, c'est une question qui me vient comme ça à l'esprit, la loi sur la copropriété qui date de 65, je crois, elle n'a pas aussi eu un impact par rapport à tout ça ? Parce que quand je vois dans les bâtiments collectifs qui ont été créés dans les années 70, c'était le chauffage collectif, par exemple. On était dans une période où il fallait tout faire ensemble, etc. Et on se retrouve avec des logements, je vois chez mes parents, que j'aime beaucoup, mais qui sont chauffés à effectivement 25 degrés. Et tout l'immeuble. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une façon aussi de repenser le collectif, du coup, de repenser le bâtiment ? C'est finalement une réflexion qui est sociétale.
Bah déjà, c'est une réflexion qui est sociétale et c'est une réflexion qui, justement, quand on parle de la copropriété, c'est une réflexion qui, normalement, à l'échelle d'un immeuble, on devrait pouvoir rénover un immeuble entier pour bien faire. Parce qu'il faut le réfléchir, c'est un bâtiment, c'est pas un appartement qu'il faudrait rénover. Donc ça c'est vrai que c'est un gros point délicat dans le cadre de la copropriété. Parce que aujourd'hui, les copropriétaires sont surtout inquiétés de savoir de payer simplement leurs charges quotidiennes qui veulent être au minimum, et ne serait-ce que changer une couverture ou rénover l'électricité, enfin des choses comme ça, c'est déjà compliqué. Alors réfléchir à la rénovation énergétique, thermique de l'ensemble du bâtiment, ça vient vraiment en dernier point dans la copro. Et par contre, on a les attentes de rénovation à l'échelle de l'individuel.
Oui, comme je suis toujours à l'antenne, je vous remercie d'avoir pris ma question et d'y avoir répondu. Voilà.
Merci. Effectivement, on peut nous appeler en direct. On rappelle rarement le numéro de téléphone, mais c'est le 01 40 05 0601. Si vous voulez intervenir dans cette émission, c'est possible, surtout quand c'est Cyril à la technique.
Merci à vous.
Je voulais rajouter à ce que disait Alexis que... disons que c'est une question évidemment complexe, puisque dans les copropriétés, c'est des lourds investissements si on veut toucher aux questions énergétiques. C'est la chaudière, le réseau de chauffage, l'isolation, les fenêtres, etc. Donc là, il y a eu beaucoup d'incitations fiscales sur les fenêtres notamment. Et il faut savoir que la région Île-de-France, elle met aussi de l'argent en ce moment pour financer... pour contribuer, subventionner un petit peu des copropriétés qui veulent se lancer dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments à plusieurs postes. Donc il y a, il y a, il y a un dossier qu'on peut déposer à la région Île-de-France pour justement se récupérer des financements qui sont tout à fait intéressants, qui peuvent permettre de payer des études thermiques, par exemple, et essayer justement de voir comment on peut s'engager dans des démarches de la sorte. Ce qui est très important de préciser, c'est qu'aujourd'hui, le coût de l'énergie est relativement modeste. Mais on sait que ça ne va faire que augmenter dans les années qui arrivent. On ne sait pas dans quelle proportion. Ça peut être x2, x3, x10, dans les 10 ou dans les 20 ans qui arrivent. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des travaux au niveau de la copropriété, je pense qu'il faut considérer, quand on touche à l'enveloppe ou à la chaudière, aux équipements, qu'on a la possibilité, là, de... On a en quelque sorte une ressource potentielle d'économie d'énergie, puisque on peut améliorer l'isolation, donc faire des économies futures d'énergie, et que quand on intervient dans son bâtiment, il faut surtout essayer de ne pas gâcher cette ressource-là, qui est extrêmement importante. Et on peut faire ça de plein de manières différentes, même des petites choses qui ne sont pas forcément très coûteuses. Quand on fait un ravalement notamment, c'est aujourd'hui vraiment... tellement dommage de ne pas faire un petit quelque chose pour améliorer l'isolation, sachant qu'il y a plein d'autres solutions que le polystyrène enduit avec un enduit plastique un peu...
C'est-à-dire que quand on fait un ravalement de façade, même à Paris, on peut en profiter pour mettre un isolant, c'est ça que vous dites?
Oui, alors nous, on travaille sur beaucoup de projets...
Même si on est sur des façades parisiennes, protégées...
Absolument, etc. Et là, encore une fois, nous, on travaille beaucoup avec le chanvre et la chaux. La chaux, c'est la chaux aérienne, c'est probablement le meilleur matériau pour faire des enduits, c'est naturel, c'est extrêmement pérenne, c'est totalement compatible avec toutes les maçonneries sur lesquelles on peut l'appliquer, et il y a une technique très simple qui est développée par un certain nombre de gens motivés, responsables et engagés. Donc je peux citer l'association Construire en Chanvre qui est un site internet justement dans lequel on trouve beaucoup d'informations. Nous, on travaille beaucoup avec un industriel qui fait de la chaux qui s'appelle Tradical. Il suffit, par exemple, de rajouter dans le corps de l'enduit qui permet de rattraper les façades un peu hétérogènes. On rajoute un tout petit peu de chanvre et ça fait de l'isolation. Et
c'est efficace.
C'est tout à fait efficace puisque ça permet d'isoler un petit peu, de ne pas couper l'inertie qui reste à l'intérieur du mur. Ce qu'on perdrait quand on fait un doublage en placo-plâtre avec une laine minérale qui dégrade la qualité de l'air intérieur, qui coupe tous les transferts à travers le mur, qui va créer donc des désordres et des pathologies parce que le mur ne respire plus, qu'il y a des problèmes d'humidité qui vont se manifester dans le mur, donc des champignons et des problèmes d'allergie. Et il faudra appeler, on a maintenant des médecins de l'habitat. On va soigner les maisons pour soigner les gens. Ça, il faut savoir que les hôpitaux envoient maintenant les médecins non plus soigner les gens, mais soigner les maisons pour pouvoir soigner les gens.
Alors, toute cette technicité, en fait, elle suppose des compétences. On a commencé à en parler tout à l'heure. Ça suppose quand même que vous êtes concepteur, mais que vous trouviez des entrepreneurs qui utilisent les méthodes que vous recommandez. Est-ce que ça, c'est facile à trouver? Et on a parlé de label tout à l'heure. Est-ce qu'on prend quelqu'un qui a un tatouage?
Ouais, c'est vrai que c'est une vraie difficulté. C'est qu'on a l'impression que les entrepreneurs, souvent, travaillent plus facilement à l'ancienne avec, comme vous disiez, des placoplâtres et puis un BA13 et,
évidemment,
et des parpaings. Quoi.
Bah parce que toutes ces techniques, elles sont abordables. Elles sont pas chères, elles sont maîtrisées.
On se fait une bonne marge dessus.
On se fait une bonne marge et puis on a un mur bien droit, parfait, avec toute l'architecture qu'on peut développer à l'intérieur. Sauf que évidemment derrière ces doublages là ça peut être la merde, et c'est souvent la merde, c'est dégueulasse, ça pourrit et on ne le voit plus.
Alors à qui est-ce que vous faites appel pour que ce soit
mieux? Je pense que Alexis nous dira sûrement comment il fait, mais moi il
se trouve que magique.
On fait pas appel à des éco-constructeurs certifiés. Déjà, c'est le premier point, parce que je pense que ceux-là ne sont pas forcément les meilleurs.
Ils ont les paillettes, mais...
Ouais, et puis je sais donc par certains entrepreneurs justement, qui sont très engagés dans la construction en chanvre, toujours. on finit par beaucoup se côtoyer et beaucoup échanger. Donc je sais que justement, sur les chantiers, après, la réalité est souvent tout autre. Et donc tout ce qui permet de faire de la communication et du chiffre, en général, ne permet pas forcément de faire du bon boulot. Tout simplement, je pense que les gens qui sont des gens un peu responsables, engagés, ces gens-là, ils existent. Et moi, bon, au fil de l'exercice, de mon exercice professionnel, je finis par en connaître plusieurs et par ne vouloir ne travailler qu'avec eux, évidemment. Mais ça existe. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça impose des choix économiques. Exactement comme disait Alexis, il faut faut mettre en relation, je pense, ses besoins et les moyens. Hein, et là, c'est chaque personne qui, en son âme et conscience, doit faire ses choix là-dessus. Et on a, nous, par exemple, sur un petit projet qui est en train de construire, qui est en construction en Normandie, réussi un pari qui était assez intéressant. C'est qu'on a mis une grande part de l'économie dans la qualité de la construction. Et ce qui est très intéressant, c'est que le projet se fait, il est sorti. Il sera assez brut de décoffrage, mais fini malgré tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que au final, dans l'équation économique du projet, le maître d'ouvrage aura investi 70% de son budget dans le gros œuvre et le clos est couvert, alors que habituellement c'est 50%, mais parce que derrière on a réussi à faire des économies sur les aménagements intérieurs. Et donc, dans ce projet, il n'y a pas de plaque hostile, par exemple, et il n'y a pas de laine minérale.
C'est une collectivité publique ou...
Non, c'est un projet de maison d'un particulier. Alors, c'est ce qui est difficile dans notre métier, c'est de trouver des gens qui sont intéressés et qui sont prêts, justement, à une démarche un petit peu alternative. Nous, on a la chance d'avoir rencontré un très bon maître d'ouvrage public dans le projet de la rue Mira qui nous fait confiance. Et on a eu de bonnes expériences avec deux ou trois particuliers qui sont vraiment prêts à se lancer dans une démarche un peu alternative.
Alors pour vous, c'est difficile, mais vous êtes plusieurs. Alexis, comment vous vous y êtes pris à un moment de votre conversion ?
Pour revenir sur les entreprises, justement, moi je trouve personnellement que c'est, de par mes quelques petites années d'expérience là, que c'est la partie un peu la plus difficile du métier là. C'est-à-dire trouver une entreprise qui justement satisfasse à besoins et du client et de l'architecte. Sur ces questions-là, c'est vrai que... Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux possibilités. Soit l'entreprise est déjà compétente et motivée dans ce domaine-là, soit c'est une entreprise traditionnelle qu'il faut former. Et c'est aussi un peu le métier.
C'est vous qui les formez ?
Former dans le sens où on va les intéresser, on va leur parler de toutes ces questions-là et voir ce qu'elles peuvent faire... à ce niveau-là. Moi, là, en ce moment, je bute sur trouver un menuisier qui veuille bien me trouver des fenêtres qui soient autres qu'en bois exotique. C'est terrible. Alors qu'on a de très bons bois en France qui permettent de faire ça, mais c'est une des questions sur lesquelles je bute. Là.
Parce qu'il ne peut pas faire venir du bois d'autre part.
Ça existe, mais la plupart des menuisiers traditionnels, apparemment, ou alors je ne rencontre pas les bons, pourtant je fais du bouche à oreille, etc. Mais beaucoup n'imaginent même pas faire autrement qu'en bois exotique qui vient de loin.
Justement, sur le Jura, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a sur ces questions d'environnement et puis d'éco-construction, il y a beaucoup d'initiatives locales, et notamment dans le Jura, il y a des parcs dans lesquels on essaye de redynamiser la filière bois locale.
Avec des futaies spécifiques.
Exactement. Et sur l'environnement, ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que souvent les maîtres d'ouvrage et les acteurs publics, les collectivités, font aussi leur propre définition de ce que c'est qu'une construction environnementale, toujours attachée à un site. Et donc c'est très intéressant. Je pense qu'on est dans une perpétuelle évolution et ça...
Alors, peut-être pour finir rapidement sur le Grenelle. Le Grenelle, j'ai l'impression que ça a été, pareil, un coup de com', comme beaucoup de sommets. Mais en matière de formation, il n'y a rien eu non plus.
Moi, le Grenelle, je l'ai lu dans les journaux. Hein, c'est tout.
Sur le terrain, ça n'a jamais existé.
À la radio, on en a parlé aussi, peut-être.
Et Alexis, non, peut-être une...
Non, pas rien à dire sur le Grenelle.
Bon, on va,
peut-être
on
que
va...
Florent aurait une chanson à faire. Hein.
Ça, il y a beaucoup à dire sûrement.
Sur l'initiateur.
On va conclure, il est 21h30 passé. Merci, je rappelle que vous pouvez réécouter l'émission demain entre 11h et midi. Vous pourrez également la réécouter sur le web sur zoom-ecologie.net ou nous envoyer des messages zoomecolo3@gmail.com, qu'on se retrouve le jeudi 19 janvier, vu que l'émission est hebdomadaire, puisque Zoom Écologie, c'est toutes les semaines. Merci à nos invités, Laurent Mouly, Alexis Demanche, Sophie Roux qui était avec nous comme d'habitude, Cyril La Technique, merci à Florent Nouvel. On avait également deux jeunes auditeurs qui étaient dans le studio, mais qui sont un peu dispersés, là, ils commencent à s'ennuyer un peu. Donc Florent et Nathan, donc c'était la soirée des Florents. Je rappelle rapidement à votre sujet, Florent Nouvel, que vous êtes en concert, on ne l'a pas dit, donc ce n'est pas un rappel, c'est une information, le samedi 4 février sur le bateau à la Main. Voilà, c'était Zoom Écologie, troisième jeudi, on vous retrouve le 19 janvier. Merci, à bientôt et bonne soirée.